Avant de lire le message que j'ai préparé, c'est sur la nouvelle naissance. J'aimerais simplement, j'essaie de me mettre à la place de ceux qui ne sont pas habitués au langage évangélique. C'est comme si, ça arrive que certains, c'est comme si on entend un russe nous parlant en russe, puis nous on parle français, on a de la difficulté à se comprendre. J'essaie de vulgariser le message le plus possible pour que vous puissiez comprendre. Mais j'aimerais simplement pour vous encourager à ouvrir vos cœurs. Et simplement vous rappeler ceci, parce qu'il y a beaucoup de gens, quand il arrive quelque chose de mauvais dans le monde, ben, ils ne croient pas en Dieu. Ils ne croient pas en Dieu, puis quand ça va mal, ben, ils mettent toute la faute sur Dieu. Quoi. Et je tiens simplement à vous dire qu'il s'est passé quelque chose dans le Jardin d'Éden à un moment donné, et que le monde dans lequel on vit, ce n'est pas le monde que Dieu voulait avoir, c'est le monde que l'homme a voulu avoir sans Dieu, avec toutes ses conséquences. Et Dieu, dans sa bonté, dans son amour, avait déjà averti l'homme et la femme, le jour où tu me désobéiras, tu vas devenir mortel, et avec toutes les conséquences qui vont s'en suivre. La grande richesse, la grande espérance du chrétien, à cause de la résurrection de Jésus, parce qu'il a vaincu la mort, eh bien, nous savons un jour que Dieu mettra fin à cette misère qui règne dans le monde. Non seulement il va mettre fin à la misère qui règne dans le monde, mais il va mettre fin à ce monde dans lequel on vit présentement. Dieu dit qu'il va recréer une nouvelle terre et des nouveaux cieux, où le péché ne règnera plus sur ce monde, où il n'y aura plus de deuil, où il n'y aura plus de maladies, où il n'y aura plus de larmes, où il n'y aura plus de guerre, parce que Dieu va régler ses comptes avec l'humanité. Et moi, ça, c'est mon espérance aujourd'hui. C'est mon espérance que parce que Dieu a ramené Jésus-Christ de la mort à la vie, parce que j'ai cru dans ce sacrifice-là, eh bien, j'ai la certitude qu'un jour, Dieu va me ramener aussi de la mort à la vie. Vous savez, ce qui distingue l'homme de toutes les autres créatures, des animaux, c'est qu'on possède un esprit. Et quand on meurt, l'esprit retourne à son créateur pour rendre des comptes. Et ça, c'est important pour nous. Le corps, il se décompose, c'est normal, il est mortel. Mais un jour, on sera revêtu du même corps que Jésus avait après sa résurrection. Et ça, c'est extraordinaire. Qu'est-ce que le monde a à nous offrir, de plus, de mieux que ce que Dieu nous offre en Jésus-Christ? Mais rien. Mais rien. Dieu nous offre des perles. Le monde nous offre des billes et essaie de nous faire croire que ces billes-là, ce sont des perles. Dieu nous offre des perles. Nous sommes aimés par Dieu, c'est extraordinaire. Vous êtes aimés. Dieu n'a même pas plus qu'il vous aime. Dieu n'a même pas plus que vous. Il vous aime autant que moi, et ainsi de suite. Et l'amour de Dieu ne varie pas en fonction de ce que vous faites de bien, ce que vous faites de mal quand vous êtes ses enfants. Ça l'attriste quand on fait quelque chose de mal, mais ça ne diminue pas son amour pour nous. Et quand on fait quelque chose de bien, ça n'augmente pas son amour pour nous, mais le Dieu est dans la joie de voir que ses enfants marchent dans la vérité. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, il y avait un fil conducteur dans les deux messages, cet après-midi, dans les deux témoignages, c'était que ces deux personnes, elles ont témoigné qu'elles étaient nées de nouveau. Qu'est-ce que c'est naître de nouveau? C'est de pouvoir repartir, redémarrer une vie sur de nouvelles bases. Avec Dieu, il n'est jamais trop tard pour recommencer à zéro. C'est pas merveilleux? Je rencontre des gens, des fois, qui ont été abîmés, des divorces, ci et ça, et finalement, qui sont découragés, qui me disent, bien, si je pouvais recommencer à zéro, j'agirais autrement. Ben oui, tu peux recommencer à zéro aujourd'hui. Je ne sais pas si dans quel problème vous êtes, c'est possible que vous ayez des problèmes, mais vous pouvez recommencer à zéro aujourd'hui grâce au sacrifice de Jésus-Christ. De nos jours, beaucoup de gens recherchent une réalité surnaturelle et les livres sur la spiritualité se vendent bien. Arrêtons de penser que les gens ne sont pas religieux. Je vais vous démontrer tantôt que les gens sont aussi religieux aujourd'hui qu'ils étaient avant. Ils ont simplement changé d'endroit et changé la cérémonie. Salomon, dans le livre de l'Ecclésiaste, a dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme, dans le cœur de chaque homme, la pensée de l'éternité. Le philosophe français Blaise Pascal a déclaré qu'il y avait un vide en forme de Dieu dans le cœur de chaque être humain. L'homme est incurablement religieux par nature. C'est pourquoi chaque société humaine, aussi primitive soit-elle, a une certaine conception d'une puissance supérieure et une vision d'une réalité qui dépasse ce qui est naturel. Cela explique jusqu'à un certain point pourquoi la science n'a pas éradiqué la religion sur la Terre et qu'elle ne le pourra jamais le faire, parce que les avancées technologiques les plus sophistiquées ne peuvent répondre aux besoins les plus profonds du cœur humain. Nous avons été créés pour aimer et être aimés. Et s'il y en a un des deux qui fait défaut, on finit par devenir des épaves. On a besoin d'être aimé et on a besoin d'aimer. On a besoin de recevoir, on a besoin de donner. S'il y en a un des deux qui fait défaut, eh bien, on commence à prendre des médicaments, on commence à boire, on commence à se droguer, qu'on se lance dans n'importe quelle dérive. L'homme a été créé pour aimer et être aimé. L'homme a été créé pour apprendre que Dieu créateur qui l'aime au point où il a sacrifié son propre fils. Son propre fils. Pour que nous puissions recevoir la vie et non pas la mort. Recevoir la vie. On a un Dieu extraordinaire. Et tant qu'on ne lit pas la Bible, on n'a aucune idée de ce que Dieu peut être. Dieu, c'est un être qui pourrait se passer de nous. Dieu ne fait pas de dépression. Il n'aurait jamais fait de dépression s'il avait été tout seul. Dieu se suffit à lui-même. Mais il a choisi que nous puissions passer l'éternité avec lui. Il a choisi non seulement que nous passerions l'éternité sur cette nouvelle terre qu'il va créer, mais que nous allons régner aussi avec lui. Souvent, je fais la blague suivante. Allez voir le roi des Belges et demandez-lui de vous asseoir sur son trône. Mais je peux vous dire une chose, vous ne rentrerez même pas dans le palais. Mais Dieu, qui règne sur l'univers, nous a dit que nous allons régner avec lui. Et dans l'Apocalypse, nous allons pouvoir nous asseoir sur son trône, dans la nouvelle Jérusalem qu'il va créer. C'est extraordinaire, ce Dieu-là. Et ça, c'est le Dieu de la Bible. C'est le Dieu qui déteste le péché, mais qui aime le pécheur. Ça, c'est le Dieu de la Bible. Regardez la valeur que vous représentez aux yeux de Dieu. Il a sacrifié son propre fils. Si Dieu avait dû exiger un prix monétaire à payer pour la valeur, le prix qu'il a payé, personne ne serait capable de payer ce prix. On n'aurait jamais assez de notre argent, jamais assez de fortune pour être capable de payer. Frères et sœurs, on a un Dieu, mes amis, on a un Dieu extraordinaire. Et la nouvelle naissance, c'est le point de départ. On va lire, je vais lire bientôt dans Jean chapitre 3, mais voilà pourquoi les gens sont à la recherche, mais ils ne recherchent pas la bonne place. Des millions de personnes lisent leur horoscope chaque matin, des millions d'autres s'intéressent à la psychanalyse, à la psychologie, à la pensée positive. Les gens sont foncièrement religieux plus profondément. De même, beaucoup de gens cherchent une réalité plus profonde à travers une religion structurée. Ils se joignent à une église, sont baptisés, confirmés, assistent fidèlement aux réunions, prient tous les jours, lisent la Bible et obéissent aux règles de l'église, en espérant que par leur façon de faire, ils vont trouver la paix intérieure et une relation profonde avec le Dieu qui leur a créé. Mais là, ça ne fonctionne pas non plus. L'église, c'est la famille de Dieu. Mais c'est la personne qui est en charge de cette église, qui est à la tête de l'église, qui est importante de connaître et de rencontrer, et c'est la personne de Jésus-Christ. Même la personne la plus religieuse qui soit découvre finalement que la religion a ses limites et que la religion qu'elle pratique ne peut ni la satisfaire, ni produire la tranquillité d'esprit ou garantir qu'elle sera acceptée par Dieu. Nous en avons un bel exemple au chapitre 3 de l'Évangile de Jean. C'est l'histoire d'un homme qui est venu voir Jésus de nuit. C'est peut-être l'exemple le plus clair d'une personne religieuse qui, suite à cette rencontre avec Jésus, a découvert que sa religion n'était pas suffisante pour répondre aux besoins de son propre cœur. C'était un homme qui avait de bonnes valeurs, mais qui ne savait pas où il allait passer l'éternité. Voici comment Jean nous présente cet homme très religieux au chapitre 3, les versets 1 et 2. Il y avait un homme appelé Nicodème, qui était du parti des pharisiens. Et qui était un chef des Juifs. Il vint une nuit auprès de Jésus et lui dit, « Rabbi ou maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire des miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Pour être en mesure de comprendre cette histoire, nous avons besoin de connaître trois choses concernant Nicodème. La première, c'est que c'est un pharisien. C'est un religieux. Si vous avez lu la Bible, vous avez probablement une vision négative des pharisiens. Vous pensez que peut-être que tous les pharisiens étaient des hypocrites légalistes qui haïssaient Jésus, mais ce n'est pas vrai du tout. Au premier siècle, les pharisiens étaient largement respectés pour leur grande piété, pour leur connaissance approfondie de la Torah, et ainsi de suite. C'était des hommes qui voulaient réellement obéir à la loi de Dieu, mais qui s'y prenaient de la mauvaise façon. Non seulement ils étudiaient la Bible pendant plusieurs heures par jour, mais ils priaient 2 heures par jour, ils donnaient la dîme de tout ce qu'ils possédaient, et règle générale, ils étaient scrupuleusement soucieux de faire respecter la loi. Les exigences étaient tellement sévères que, dans l'époque de Jésus, il y avait plus ou moins 6 000, pas plus que 6 000 pharisiens. Parce que peu d'hommes étaient en mesure de faire ce genre de sacrifice, et ceux qui le faisaient étaient vus comme des hommes, vraiment des hommes avec un caractère solide. Deuxièmement, Nicodème est un personnage important. Deuxièmement, Nicodème, c'est pas un nom juif, bizarrement. C'est un nom grec. Donc, ça lui donne une connotation internationale, c'est-à-dire qu'il était reconnu comme étant le docteur. C'est quelqu'un qui pouvait quitter, aller, qui était appelé à aller enseigner dans d'autres endroits. C'était le docteur, c'est ce que Jésus va lui dire. Il faisait partie de ce groupe restreint de 70 hommes qui étaient chargés de gérer certains différends et régler des questions d'ordre juridique afin d'éviter que les Romains interviennent. Le fait que Nicodème faisait partie de ce groupe restreint signifiait qu'il devait être hautement respecté par ses pairs. Pour employer un terme du 20e siècle, du 21e siècle, c'était non seulement un sénateur, mais aussi un juge qui siégeait à la Cour suprême. Voilà donc le portrait de l'homme qui vient voir Jésus. Chers amis, il ne faut pas tomber dans le piège de juger la religion à travers cet homme, parce que sans le savoir aujourd'hui, la religion est encore très populaire dans notre société. Elle a seulement changé, comme je l'ai dit tantôt, seulement changé de forme et d'endroit. Avant, vous alliez dans les églises, c'était plein de statues qui ne bougeaient pas. Grande salle. Aujourd'hui, l'église, vous savez où elle est? Terrain de football, terrain de basket, terrain de... C'est quoi l'autre avec les pieds? Une océan. Baseball, hockey. Les idoles, elles sont sur le terrain, elles bougent. Dans l'église, il y a de la musique. Sur les terrains, dans le sport, il y a de la musique. Ici, vous louez le Seigneur, vous glorifiez le Seigneur. Sur le terrain, les fans applaudissent, les fans louent leurs idoles. On leur donne des noms. On a une grande vedette de hockey, chez nous on l'appelait le démon blond. Quand Maurice Richard est mort, celui qui a popularisé le hockey, on a écrit un livre sur lui, l'idole d'un peuple. Les statues, elles bougent aujourd'hui. Les gens ont besoin d'être excités. Il y a du spirituel dans ça, hein? Ne vous en faites pas, hein? À la faculté de théologie, on a fait une étude sociologique sur ces choses-là. Il y a du spirituel qui se cache derrière ça. Hein. Une statue qui ne bouge pas aujourd'hui, il faut qu'on soit excité, il faut qu'il y ait de la vie. Ben, les gens sur le terrain ils voient leurs idoles et les soutiennent. Le religieux, il est encore partout aujourd'hui. Partout. La question qu'on peut se poser concernant Nicodème, c'est pourquoi est-il venu voir Jésus de nuit? Il y a deux personnes qui sont venues voir Jésus de nuit, Nicodème et Judas. Pourquoi Nicodème est venu voir Jésus de nuit? Peut-être parce qu'il savait que Jésus était un personnage controversé et qu'il ne voulait pas risquer d'être vu en public. Peut-être désirait-il avoir un long entretien personnel avec Jésus suite à un enseignement qu'il avait entendu de lui et qu'il voulait en connaître davantage sur son enseignement. Chers amis, le fait qu'il ait risqué sa réputation et sa position pour venir voir Jésus indique qu'il cherchait des réponses à des questions d'ordre existentiel qu'il se posait. Remarquez ce qu'il lui a dit au verset 2. « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu pour nous enseigner, car personne ne peut faire des miracles comme tu en fais si Dieu n'est pas avec lui. » Et en disant cela, Nicodème admet ici que Jésus est plus qu'un simple humain, qu'il est plus qu'un enseignant venu de Galilée, c'est quelqu'un qui a été envoyé par Dieu pour les enseigner. Frères et sœurs, vous savez qui est Jésus? C'est Dieu qui s'est fait homme pour nous sauver sa créature. Extraordinaire. Il a décidé de quitter le ciel pour venir sur la terre, pour sauver des gens qui n'en avaient rien à cirer de lui, qui se moquaient de lui, qui désobéissaient à sa loi. Et il l'a fait simplement par amour pour sa créature, parce que Dieu veut que nous passions l'éternité dans sa présence. Quel Dieu merveilleux! Frères et sœurs, Dieu a plus de facilité à nous pardonner que nous avons de la facilité à pardonner aux hommes. Dieu a beaucoup plus de facilité à oublier les torts que les gens lui font, que nous avons de la difficulté à oublier les torts que les gens nous font. On a un Dieu extraordinaire, c'est difficile d'expliquer quelle sorte de Dieu que c'est, mais une chose de sûre, Dieu est amour. Dieu est saint, mais Dieu est amour. Tout ce que nous venons de voir nous amène à dire qu'être religieux ne suffit pas. Si c'était le cas, Nicodème n'aurait pas pris le temps de rencontrer Jésus. Il est venu parce que malgré toute son activité religieuse, il ressentait un terrible vide dans son cœur, au point de se dire en lui-même, est-il possible que Jésus puisse combler ce vide? Cela nous appelle à la réponse que Jésus donne à partir du verset 3 à ce chef religieux cultivé, instruit et bien respecté. Pour ceux qui ont leur Bible, je te déclare, c'est la vérité, personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît pas de nouveau. Nicodème lui dit, comment un homme déjà âgé peut-il naître de nouveau? Il ne peut pourtant pas retourner dans le ventre de sa mère et naître une seconde fois. Jésus répondit, je te le déclare, c'est la vérité, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît pas d'eau et d'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Comment cela peut-il se faire? Parce que la nouvelle naissance, ça ne s'explique pas. C'est un miracle. Si vous me demandez comment j'ai fait pour naître de nouveau, je ne peux pas vous l'expliquer. J'ai entendu l'Évangile comme vous l'entendez aujourd'hui. J'ai pris la décision de marcher avec Dieu. J'ai pris la décision de mettre mon ancienne vie de côté puis de marcher dans la nouvelle vie que Dieu m'offre. Je me suis réveillé le lendemain. J'étais une nouvelle personne. J'avais confessé mes péchés. Je m'étais repenti. Et j'avais accepté, reçu Jésus-Christ comme mon Sauveur et Seigneur et ça a changé ma vie. Si je n'avais pas fait ce pas-là, je serais toujours au Québec aujourd'hui, sans savoir si je serais toujours en vie. Et si je suis ici avec vous aujourd'hui pour vous parler de l'Évangile, c'est simplement en reconnaissance de ce que Christ a fait pour moi dans ma vie. Il dit, en vérité, je te le dis, nous disons que nous savons, nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Alors il dit non seulement que personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît pas de nouveau, mais personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît pas de nouveau. Alors, vous demandez peut-être ce que veut dire l'expression « naître de nouveau ». Dans le texte original, le mot « nouveau » a une double signification. Il peut signifier « encore »,« naître encore une fois », mais c'est au point de vue spirituel, ou « d'en haut »,« naître d'en haut ». « Naître d'en haut », pourquoi? Parce que c'est Dieu qui nous donne cette naissance-là. C'est pas l'homme, c'est pas humain, c'est spirituel. Donc, dans ce cas, les deux significations s'appliquent. Ici, Jésus dit à Nicodème que le seul moyen de trouver ce qu'il cherche, c'est de naître d'en haut. Et si vous cherchez aujourd'hui, le seul moyen de pouvoir passer de la mort spirituelle à la vie spirituelle, eh bien, c'est de naître d'en haut. Malgré tout son savoir, Nicodème est complètement décontenancé par ce qu'il vient d'entendre. Est-il possible? C'est bizarre, hein? Un vieux bonhomme qui dit, mais c'est-tu possible, Jésus, qu'on puisse rentrer dans le ventre de... On parle d'un docteur. Est-ce que c'est possible que je puisse rentrer dans le ventre de ma mère? Non! Jésus ne parlait donc pas ici d'une deuxième naissance physique, mais plutôt d'une naissance spirituelle. Vous êtes né une fois physiquement, et cette naissance physique vous fait entrer dans le monde physique, dans le monde qu'on voit. Mais si vous voulez entrer dans le monde spirituel, c'est-à-dire dans le royaume de Dieu, eh bien, vous avez besoin de naître spirituellement parlant. Et de peur que Nicodème comprenne mal cette vérité, Jésus va ajouter quelque chose d'important au verset 7. « Ne sois pas étonné, parce que je t'ai dit, vous devez tous naître de nouveau. » Le verbe « devoir » ici implique une obligation. Autrement dit, vous êtes obligé de naître de nouveau si vous voulez un jour entrer dans le paradis. La nouvelle naissance n'est pas donc quelque chose de facultatif pour aucun d'entre nous. Jésus n'a pas dit « je vous recommande fortement de naître de nouveau » dans le texte ici. Et il n'a pas demandé à Nicodème s'il pensait que ce serait une bonne idée de naître de nouveau. Non, rien de tout cela. Jésus a utilisé un langage qui ne laisse place à aucun choix, aucun autre choix. Si nous voulons entrer au paradis, nous devons naître tous de nouveau. Et avant de continuer, permettez-moi de vous rappeler que Jésus a prononcé ces paroles non pas devant une personne immorale, non pas devant un sans-abri, mais devant l'un des hommes les plus religieux et les plus cultivés de son époque. Et à tout point de vue, Nicodème était un homme très bon et certainement un homme qui devait être admiré pour son attachement sincère et fervent à sa religion. Pourtant, Jésus va lui dire, « Tu dois naître de nouveau. » Si Nicodème avait besoin de naître de nouveau, qu'en est-il de vous et de moi, chers amis? Permettez-moi de vous poser la question directement. Êtes-vous déjà né de nouveau au moment où on se parle? Je ne vous demande pas à quelle église vous appartenez. Je ne vous demande pas si vous êtes baptisé. Je ne vous demande pas si vous avez été confirmé ou si vous avez une conduite exemplaire. Nicodème n'avait rien à se reprocher de ce côté-là. Jésus lui a dit, « Vous devez tous naître de nouveau. » Cela signifie que les bonnes personnes ont besoin aussi de naître de nouveau. Cela signifie que les personnes religieuses ont aussi besoin de naître de nouveau. Cela signifie aussi que les membres d'une église ont besoin aussi de naître de nouveau. Pardon. Bref, nous devons tous naître de nouveau. Si nous voulons entrer au paradis, sinon aucun de nous ne verra jamais le royaume de Dieu. Chers amis, Nicodème nous représente tous. Il personnifie toutes les personnes honnêtes, toutes les personnes dans ce monde, toutes les bonnes personnes, toutes les personnes honnêtes. C'était un homme bon qui connaissait des choses sur Dieu, mais il ne connaissait pas Dieu personnellement. La nouvelle naissance, elle est une preuve qu'on a rencontré Dieu et qu'on le connaît d'une manière personnelle. La nouvelle naissance élimine le fait qu'on connaît des choses sur Dieu, c'est qu'on connaît Dieu d'une manière personnelle. Dieu s'est révélé à l'homme à travers Jésus-Christ pour vivre une relation avec lui. C'est ça le miracle du christianisme, le vrai christianisme. Et je ne vous parle pas de religion ici, je vous parle de relation personnelle avec le Seigneur. C'était là le problème auquel était confronté Nicodème. Il connaissait des choses sur Dieu, mais il ne connaissait pas Dieu. Son histoire nous rappelle que la religion est bonne, mais que la nouvelle naissance est de loin meilleure. Nous avons, nous aussi, besoin de ce dont Nicodème avait besoin, parce que nous nous trouvons exactement placés dans la même situation que lui. Nous avons besoin de vivre cette expérience capitale qu'est la nouvelle naissance. Autrement dit, nous avons besoin d'expérimenter ce dont Jésus a parlé à Nicodème il y a plus de 2000 ans. Cela signifie que si vous voulez vivre ce que Nicodème a vécu, vous devez faire le pas qu'il a fait. Il a admis son besoin. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour les justes, je suis venu pour les pécheurs. Je suis venu chercher ceux et celles qui sont perdus. Si vous n'êtes pas capable d'admettre aujourd'hui que vous êtes un pécheur, c'est-à-dire que vous avez désobéi à la loi de Dieu, qu'un châtiment vous attend quand vous allez comparaître devant Dieu, que vous voulez vous repentir de vos péchés, que vous placez toute votre confiance dans ce que Christ fait sur la croix pour que vous receviez le pardon de vos péchés, vous passez par une nouvelle naissance. Il y a un miracle qui se passe dans votre vie. Ça, Nicodème a admis son besoin. Il l'a fait en faisant un inventaire personnel de sa vie, en réalisant que malgré tous ses efforts, il manquait quelque chose de vital et plus profond de lui-même. En résumant ses vertus qui sont nombreuses et authentiques, cet homme de bien est venu à la conclusion qu'il avait besoin de quelque chose d'autre. Il ne savait pas ce que c'était et il n'arrivait pas à mettre le doigt dessus, mais au fond de lui-même, il réalisait que sa religion, aussi sincère soit-elle, ne pouvait pas combler le vide béant qu'il y avait dans son cœur. Je m'arrête ici pour dire que rien d'autre ne compte dans votre vie, jusqu'à ce que vous arriviez à la même conclusion qu'à Nicodème. Tant que vous continuez à vivre votre vie en pensant que tout va bien, vous ne pourrez jamais expérimenter cette nouvelle naissance spirituelle parce que vous ne ressentirez pas le besoin de Dieu d'intervenir dans votre vie. Vous devez commencer par ressentir ce que Nicodème a ressenti, le sentiment que vous avez besoin désespérément de ce Dieu, du Dieu de la Bible. Premièrement, il a admis son besoin de Dieu dans sa vie. Deuxièmement, il est venu rencontrer Jésus-Christ. J'entends par là qu'il est venu lui-même. Il n'a pas envoyé quelqu'un d'autre, il est venu lui-même. Il l'a cherché, il l'a trouvé. Cela m'amène à dire que Nicodème n'aurait jamais pu envoyer quelqu'un d'autre à sa place pour le représenter. Le salut implique qu'un individu ouvre de lui-même son cœur à Jésus-Christ. Personne ne peut le faire pour vous. Et vous ne pouvez pas prendre sans tag cet engagement pour quelqu'un d'autre. Premièrement, Nicodème a mis son besoin de Dieu dans sa vie. Deuxièmement, il est venu rencontrer Jésus. Et troisièmement, il a fait entièrement confiance à Jésus-Christ. Ça, c'est une des parties aussi les plus difficiles. On a été élevé à partir du moment où on est venu au monde à faire confiance à personne. Souvent, c'est pas vrai. Je sais pas quelle sorte de parents vous avez eu. Moi, je viens du monde. Donc, moi, on me disait, écoute, tu fais confiance à personne, sinon ils vont abuser de toi. Ils vont te pomper, ils vont te siphonner. Le Seigneur, il dit maintenant, si tu prends une décision pour moi, tu me fais confiance. Je suis encore capable de mieux diriger ta vie que toi, tu peux la diriger. Ça va bien avec Luna. Elle commence à rentrer dans sa vie, elle a 17-18 ans. Elle a quand même vécu des mauvaises expériences. Et quand vous vous adressez à quelqu'un qui a 50, 60, 70 ans, qui a vécu 3 divorces, qui a été blessé par beaucoup de gens, qui a été abandonné, qui se retrouve dans un studio, qui a de la misère à arriver à la fin du mois, et que vous lui dites que Dieu l'aime, la pilule est difficile à passer, que vous lui dites, écoute, Dieu peut te sortir de là-dedans, Dieu peut t'aider, veux-tu lui faire confiance? Ce bonhomme, il se rappelle, le 70 ans, il se rappelle la confiance qu'il a mis dans différentes personnes tout au long de sa vie, qu'on l'a trompé, qu'on l'a abusé, il ne veut plus rien savoir de Dieu. Aujourd'hui, vous avez un privilège extraordinaire. Peut-être que pour certains ici, c'est la première fois que vous entendez le message de l'Évangile. C'est peut-être aussi la dernière fois. Vous ne savez pas demain si vous allez être encore en vie, peu importe l'âge que vous avez. Vous entendez l'Évangile, c'est une grâce que Dieu vous fait. C'est une grâce. Sautez sur l'occasion d'accepter cette offre que Dieu vous fait en Jésus-Christ. Le verset 16, un des versets les plus connus de la Bible, dit « Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ce qui est intéressant, tout de suite au verset 17, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde croit en lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu. Et le seul jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, Jésus, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal haït, déteste la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Chers amis, la seule raison pour laquelle les gens n'acceptent pas Jésus-Christ, c'est parce qu'ils ne veulent pas renoncer à la vie qu'ils mènent. C'est la seule raison. Je ne commençais pas à dire c'est parce que c'est à cause de tel péché. C'est parce qu'ils ne veulent pas renoncer à la vie qu'ils vivent présentement. Pensant qu'ils vont perdre beaucoup de plaisir. Eh bien, Dieu va vous négocier quelque chose si vous l'acceptez aujourd'hui. Il est prêt à prendre votre plaisir, à le mettre dans les poubelles, à vous donner la joie qui vient du ciel et le déposer dans votre cœur. Il est prêt à prendre des plaisirs, à les écraser dans la poubelle pour jamais qu'elles ne refassent surface et vous donner non seulement sa joie qui vient du ciel, mais il faut vous donner aussi sa paix qui surpasse tout ce que l'homme peut comprendre. Et ça, pour l'éternité. On a un Dieu extraordinaire. Pardon. Croire signifie faire confiance entièrement à Christ pour recevoir le pardon de vos péchés. C'est ce que Nicodème a fait, c'est ce que vous devez faire pour naître de nouveau. Croire signifie que vous placez votre vie et toute votre espérance en Jésus comme votre Sauveur et votre Seigneur. Vous recevez non seulement le pardon de vos péchés, mais vous recevez aussi la vie éternelle, Jésus-Christ est ressuscité. 4 étapes pour faire la paix avec Dieu. Il y a donc 4 étapes à suivre pour faire la paix avec Dieu. Ces 4 étapes résument très bien comment quelqu'un peut naître de nouveau. La 1ère et la 3ème étape concernent Dieu. La 2ème et la 4ème étape vous concernent. 1ère étape, Dieu veut vous donner la paix, sa paix et la vie éternelle. Le verset 16 que je viens de lire nous dit que Dieu offre la vie éternelle à quiconque croit en Jésus-Christ. Il veut vraiment que vous soyez pardonnés et que vous passiez l'éternité avec lui au ciel. 2ème étape, le problème, c'est le péché qui vous sépare de Dieu. Il est écrit dans Romains chapitre 3, 23 que tous les hommes ont péché. Ils sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Cela signifie simplement que personne n'est parfait parce que nous avons tous péché en pensée, en parole et en action. Savez-vous combien de péchés il faut pour envoyer quelqu'un en enfer? Un seul. Savez-vous combien ça a pris de péché pour sortir Adam et Ève du jardin d'Éden? Un seul. Dieu n'évalue pas les péchés comme on voit. Pour Dieu, un simple vol et un meurtre, c'est traité de la même façon. On a de la difficulté à saisir la sainteté de Dieu parce qu'on est tellement tordu, notre cœur est tellement tordu qu'on a de la difficulté à comprendre que ce Dieu-là, s'il ne tolère pas le péché parce qu'il est saint, il aime le pécheur. Juste ça, c'est déjà difficile à comprendre. C'est extraordinaire ce Dieu de la Bible. C'est extraordinaire ce Dieu, l'œuvre qu'il peut accomplir dans vos vies, comme il l'a fait dans ma vie. 3ème étape, le remède de Dieu pour votre péché, c'est la croix de Christ. Romains 5, 8 dit que Dieu prouve son amour envers vous, envers moi, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, c'est-à-dire des ennemis de Dieu, Christ est mort pour nous. Par sa mort sur la croix, Jésus-Christ a pris votre place et il a payé la punition que vous méritiez pour tous vos péchés. Et celui qui reçoit Jésus-Christ, eh bien, il ne passe plus en jugement, mais il est libéré, il est pardonné. 4ème étape, la dernière, il ne vous reste plus qu'à ouvrir la porte de votre cœur à Jésus et nous faire confiance comme votre Sauveur et comme votre Seigneur. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce tableau, ce célèbre tableau représentant le Christ arrêté devant une maison de campagne. Il était venu pour visiter les occupants de la maison, mais personne ne l'a laissé entrer. Et lorsque vous regardez ce tableau, tout vous semble normal à première vue, jusqu'à ce que vous fixiez vos yeux sur la porte d'entrée. Vous remarquez alors qu'il manque quelque chose à cette porte. Il n'y a pas de poignée. Pourquoi? Parce que la porte du cœur est toujours verrouillée de l'intérieur. Dieu, par amour, ne vous forcera jamais à ouvrir la porte de votre cœur pour le recevoir. Vous devez ouvrir la porte de votre cœur parce que la poignée, elle est à l'intérieur de votre cœur. Quand on aime, on ne force pas personne à faire le contraire de ce qu'il veut faire. Et Dieu, en toute liberté, il vous laisse prendre la décision qui aura des conséquences pour l'éternité. Chers amis, Jésus se tient à la porte de votre cœur et il frappe pour y entrer. Christ est un parfait gentilhomme. Il ne forcera pas la porte du cœur de quelqu'un qui ne veut pas le laisser entrer. Il attend toujours que quelqu'un lui ouvre la porte pour qu'il entre. Rappelez-vous, il y a 4 étapes à franchir pour se réconcilier avec Dieu. Dieu vous aime et il veut que vous vous réconciliez avec lui. Et il vous donne une nouvelle vie et une nouvelle espérance. Il vous suffit simplement d'admettre que vous êtes un pécheur, que vous êtes incapable de vous sauver par vous-même. Êtes-vous prêt à accepter que la mort de Christ sur la croix est suffisante pour satisfaire la justice de Dieu et effacer tous vos péchés? Êtes-vous prêt à ouvrir la porte de votre cœur et inviter Christ à y entrer cet après-midi? Une personne religieuse ou une bonne personne vit en fonction de certains principes qu'elle a établis pour bien paraître aux yeux de Dieu, mais un vrai chrétien connaît Jésus-Christ parce qu'il est né de nouveau. Quelle est votre relation avec Jésus-Christ? Le connaissez-vous personnellement cet après-midi? Beaucoup se demandent, et j'en rencontre des gens qui se demandent, si je meurs, qu'est-ce qui va m'arriver? C'est une question importante parce qu'au moins, il y a une chose de sûre dans le monde. On ne sait pas si on va finir pauvre ou riche, mais il y a une chose de sûre, c'est qu'on va mourir. On va tous mourir. Pensez un instant à la tragédie. C'est quelque chose de vieux, ça a plus de 100 ans. Mais pensez un instant à la terrible tragédie qui a frappé la grande majorité des gens, les passagers du Titanic en 1912. En montant sur ce paquebot, la grande majorité des gens ne savaient pas qu'ils périraient sur un bateau. Presque la grande majorité, oui, ne savaient pas qu'ils périraient sur ce bateau quelques heures plus tard. Un bateau qu'on considérait comme étant insubmersible. Ils n'ont jamais pensé que quelques heures plus tard, ils se tiendraient bientôt devant Dieu pour rendre des comptes. Mais c'est arrivé tellement soudainement. La même chose peut arriver à tout le monde, et ce, à tout moment. Qui peut être sûr d'être encore en vie un jour de plus? De tout mon cœur, je vous rappelle l'importance d'avoir une relation personnelle avec Jésus-Christ. Voici le message de l'Évangile en une phrase. Votre vie peut être transformée à tout jamais grâce à Jésus-Christ, au sacrifice de Christ. Si vous êtes pris dans le piège de l'amertume cet après-midi, Jésus peut vous libérer. Si vous êtes dépendant d'une substance quelconque, Jésus peut vous libérer. Si vous êtes dépendant d'un péché quelconque, Jésus peut vous libérer. Vous vous identifiez peut-être à Nicodème cet après-midi, vous êtes très religieux, très honnête, vous êtes une bonne personne, vous possédez de bonnes valeurs morales, vous êtes un bourreau de travail, vous avez la réputation d'être une très bonne personne, les gens n'ont rien à vous reprocher, pourtant vous vous dites au plus profond de vous-même, est-ce que c'est tout ce à quoi je dois m'attendre dans cette vie? Jésus a dit, vous devez naître de nouveau. Vous pouvez naître de nouveau maintenant, tout dépend de vous, et en quelques instants, votre vie changera tout jamais. Permettez-moi de vous dire ce qui va se passer si vous naissez de nouveau. Vous serez délivré du mal et vos péchés seront pardonnés. Vous recevrez une nouvelle vie, la vie abondante dont Jésus a parlé. Troisièmement, vous ne ferez jamais face au jugement de Dieu et vous avez une place qui vous est réservée au paradis. Jésus a dit, « Celui qui croit en moi n'est pas condamné. Celui qui croit en moi est passé de la mort à la vie. » Vous pouvez savoir maintenant que vous allez aller directement au ciel quand vous mourrez. Toutes ces choses vous sont données par Dieu gratuitement au moment où vous dites oui à Jésus-Christ. Voulez-vous le faire maintenant? Vous devez prendre une décision personnelle concernant Jésus-Christ. Personne ne peut prendre cette décision à votre place. Et en ce qui concerne, la nouvelle naissance, personne ne peut naître de nouveau pour vous. Vous devez choisir Jésus pour vous-même. Il vous suffit de faire confiance à Jésus-Christ et à lui seul en tant que votre Seigneur et Sauveur. Et j'aimerais vous mettre devant votre responsabilité en terminant. En terminant, je le fais, les gens de l'Église connaissent cet exemple que je donne. C'est le suivant. À la croix, ce que Jésus a fait, c'est qu'il a pris sur lui vos péchés, et en retour, vous recevez sa justice, nous dit la parole. Cela signifie une chose, c'est que vous avez deux choix cet après-midi. Soit que vous acceptez de mourir avec vos péchés et de comparaître devant Dieu avec vos péchés, ou que vous préférez que Jésus ait porté vos péchés sur la croix et les effacer, et qu'en retour, il vous donne sa justice. Je vais vous l'expliquer d'une façon imagée. On oublie que ça, c'est la Bible ici. Ça représente ma vie de péché. Tiens. Mauvaise pensée, mauvaise parole, mauvaise action. Voilà. Est-ce que je vais trouver une feuille blanche? Voilà. Ça représente la vie de Jésus. Aucun péché, aucune mauvaise parole, aucune mauvaise action, aucune mauvaise pensée. À la croix, c'est ça qui est à la croix. Ça, c'est la vie de Jésus. Ça représente ma vie. J'ai deux choix. si je refuse l'offre que Dieu me fait en Jésus-Christ à la croix, quand je vais mourir, je vais comparaître devant Dieu avec la liste de tous mes péchés. Et la Bible est claire, je suis condamné à aller en enfer. C'est un mot très dur à dire, mais je vous dis la vérité. Par contre, si je décide d'accepter ce que Jésus est mort pour mes péchés, eh bien, je lui donne, il le prend, il veut le prendre. Il veut prendre la liste de tous mes péchés et me donner en retour sa justice. Il était sans péché. Et quand je comparaîtrai devant Dieu, ce n'est pas avec la liste de mes péchés, mais avec celle de Jésus, qui est pure devant Dieu. C'est le choix que Dieu vous offre cet après-midi. Quel est votre choix? Je vous invite à baisser la tête, à fermer les yeux. On va terminer par un appel. Je vous invite maintenant à faire simplement cette prière. J'aimerais qu'on ferme les yeux pour pas que personne ne soit influencé par quiconque. Et l'Esprit Dieu vous parle, et laissez Dieu vous parler. Parlez à votre cœur. Je vous invite à faire cette prière. Rappelez-vous que les mots ne veulent rien dire à moins qu'ils expriment le désir de votre cœur. Mais si vous voulez vraiment naître de nouveau, cette prière vous aidera à exprimer ce désir à Dieu. Je vous invite donc à faire cette prière dans votre cœur en répétant ce que je vais dire. Seigneur Jésus, je te demande pardon parce que j'ai pris conscience que je suis un pécheur. Et je réalise que mes péchés m'ont séparé de Dieu. Je crois, Jésus, que tu es le Fils de Dieu, que tu es celui qui est venu sur cette terre pour me sauver. Je crois que tu es mort sur la croix pour mes péchés à moi. Je crois que tu es ressuscité des morts le troisième jour et qu'un jour tu me ramèneras aussi de la mort à la vie. Ici et maintenant, de tout mon cœur, je te reconnais comme étant mon Sauveur et le Seigneur de ma vie. Seigneur Jésus, viens habiter dans mon cœur par ton Esprit et sauve-moi. Fais de moi une nouvelle personne et donne-moi une nouvelle vie. Au nom de Jésus. Amen. Pendant que les têtes sont penchées, que les yeux sont fermés, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait cette prière-là pour la première fois cet après-midi? Simplement lever la main et la baisser. Simplement lever la main et la baisser. Je vous donnerai dans la littérature après pour que vous puissiez entreprendre une nouvelle marche avec le Seigneur. Simplement lever la main et la baisser. Oui, j'ai pris une décision de recevoir Jésus-Christ dans ma vie et d'obéir à sa parole.